Voici le troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1985. Au menu, Touche pas mon pote, 1985 est la grande année des SOS Racisme. C'est aussi une année qui marque une révolution, et je pèse mes mots, dans le téléphone. L'année où on s'extasie devant le Mac Drive. Et puis c'est l'année où la mort d'un grand acteur américain remet le sida à la une. Et enfin, 1985 marque l'arrivée de Céline Dion, en France.
1985, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Dans la nuit du 20 au 21 mars 1985, à Menton, près de Nice, un maître-cuisinier de 28 ans, Aziz Madak, est tué de 3 balles de carabine 22 long rifle. 6 heures plus tard, un homme est arrêté. Il s'appelle Francis Piovani.
Monsieur, je vous pose la question. Est-ce que vous reconnaissez le meurtre d'Aziz Madak? Eh bien oui. Oui, j'assume tout. Nous, on n'aime pas les Arabes. Et ce soir-là, avec mon collègue, on voulait faire peur aux Arabes. Voilà.
L'association SOS Racisme existe depuis un an. Son fondateur, Harlem Désir, fait le tour des médias pour mobiliser les Français sur le sujet.
Il fallait réagir, il fallait prouver que cette affaire ne nous était pas étrangère, que pour nous, elle ne concernait pas uniquement les voisins de palier de Aziz qui avaient été tués, mais que, au contraire, c'était malheureusement la même chose qu'au Havre, la même chose qu'à Châteaubriand, la même chose que cet été à Nice, lorsqu'une vieille dame juive avait été tuée. C'était dans l'air du temps, et il y avait un certain nombre de gens qui se croyaient autorisés à tuer simplement en fonction d'une différence d'origine.
Le 26 mars 1985, SOS Racisme organise une grande journée de sensibilisation dans tout le pays pour que cela n'arrive plus jamais.
Alors en quoi va-t-elle consister cette journée de demain ?
Alors dans plusieurs lycées, de 10h à 11h, il y aura des débats. Il y aura une minute de silence dans un certain nombre d'endroits à 11h. Et puis il y a des mairies qui vont faire sonner les sirènes, des églises qui vont faire sonner leurs cloches pour affirmer que cette affaire nous concerne.
Et c'est là qu'SOS Racisme commercialise un petit badge jaune en forme de main avec ce slogan « Touche pas mon pote ». Je l'ai porté, hein, comme beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai toujours.
Je pense qu'en fin de compte, dans la jeunesse, quand on arrive à vendre 350 000 badges de « Touche pas à mon pote », ce n'est plus une mode, c'est une prise de conscience.
On parle du racisme des Français envers les Arabes, mais on ne parle jamais du racisme des Arabes envers les Français. Ou des Noirs, c'est pareil.
Alors vous portez tous le badge là,
non, «
Touche pas à mon pote » ?
Non, pas justement. Pour ça, je ne le porte pas. Parce que je trouve que si je le porte, on dit « Ouais, ouais, c'est bien, tu défends le racisme des Arabes envers les Français ». Et c'est ce que tout le monde pense, alors moi c'est pour ça que je le porte pas.
C'est pas une prise de position de porter le badge ?
Non, moi je trouve ça complètement dégueulasse qu'on fasse ça aux Algériens. Je trouve ça dégueulasse, il n'y a pas que les Algériens, les Noirs s'en prennent plein la gueule aussi.
Les gens deviennent racistes dès qu'ils se font agresser par un Algérien, mais si c'est un Anglais, on fermera tous notre gueule.
Et toi si tu te fais attaquer par un Algérien ?
On dit toujours que les Algériens attaquent les petites nanas qui se trimballent dans la rue, mais la plupart du temps c'est des Français.
Et pourquoi touche pas à mon pote ?
Touche pas à notre ami, c'est touche pas aux Algériens, touche pas aux Noirs, touche pas aux étrangers.
Touche pas aux Français surtout, hein. Faudrait pas oublier, on est en France, et touche pas aux Français, ça peut marcher aussi, alors.
Y'a pas de badge, là ?
Non, moi je mets pas de badge, parce que d'abord, je crois que c'est une provocation. Hein ? Alors, si on tient notre peau pour passer rue d'Assas, faut pas les mettre. Moi, je suis pas obligé de mettre ce badge pour dire que je suis pas raciste.
Non, mais j'en cherche un, et puis y en a plus à vendre, tout le monde en achète.
Je sais pas si on doit la mettre, parce qu'on peut tomber sur des gars de Le Pen, et nous, en étant petits, on risque d'avoir des problèmes.
Si par exemple on tombe contre des fachos, on peut se faire tuer.
Pourquoi êtes-vous venu, Daniel Gélin ?
Oh, par conviction personnelle profonde, viscérale. Et puis parce que je trouve que ce mouvement qui est né de la jeunesse est un mouvement spontané, apolitique, et que très franchement, j'ai peur de ce mouvement raciste qui s'empare de la France en ce moment d'une façon un peu folle. Il faut dialoguer. Et au besoin, le rêve, ce serait de pouvoir prendre en charge certains racistes et de les convaincre. Il faut faire attention également à ce qu'on ne soit pas manipulé par les partis politiques.
L'acteur Daniel Gélin est l'une des premières personnalités publiques à porter le badge d'SOS Racisme. Coluche s'implique aussi. Et ce 26 mars 1985, il s'adresse aux lycéens parisiens du très chic lycée Henri IV.
En fait, moi, justement, je crois que les Français sont pas vraiment racistes. Je crois qu'il y a une génération de mecs qui sont un petit peu encombrés par des considérations coloniales passées. et qui l'ont en travers, quoi. Tous ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas l'avoir fait. Ils n'aiment pas faire les saloperies qu'on y a fait. Et puis maintenant, ils ressentent ça très mal. Bon, alors maintenant, évidemment, il faut voir aussi ce qu'on appelle français, parce que moi, je suis... il y en a qui sont beurre parmi vous, comme on dit. Moi, je suis fromage, mais d'origine parmesan quand même. C'est-à-dire qu'il y a, chez ce qu'on appelle aujourd'hui les Français, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des origines étrangères.
Coluche évoque encore le sujet le 17 mai 1985, alors qu'il est l'invité du Jeu de la Vérité sur TF1.
Bonsoir Coluche,
eh bien, oui.
Bonsoir Patrick Sabatier.
Bonsoir madame.
Alors je voudrais savoir si vous portez le badge « Ne touche pas à mon pote »
oui.
par conviction antiraciste
oui.
ou par snobisme. Parce qu'il me paraît bien facile d'être antiraciste dans les quartiers chics de Paris ou sur la Croisette à Cannes.
Ah oui. Vous trouvez ça snob d'être pour les Noirs, vous ?
Non.
Et pour les Arabes. C'est bizarre, hein, comme... Non, je porte le badge parce que je trouve que on nous fait assez chier avec ces histoires de racisme. Et puis que c'est une préoccupation pour des gens... d'une certaine génération, et que le bas ne touche pas à mon pote, c'est justement des jeunes qui se réunissent pour dire, nous, on a des copains qui sont noirs, ou enfin d'origine noire ou arabe, qui sont nés en France, on est potes avec, et nous faites pas chier avec vos conneries, voilà.
Le 15 juin 1985, l'association SOS Racisme organise un immense concert Place de la Concorde. Avec Lerita Mitsouko, Alain Bachung, Rachid Tah, Téléphone, Indochine, Francis Cabrel, et Bernard Lavillier.
C'est l'aboutissement de plein de choses. Ça fait un bon moment qu'on chante le mélange des couleurs, que je sache. Enfin, moi particulièrement. Ça me fait penser aux grandes fêtes qu'il y a eu, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais dans les années 68, 70. Il y avait des grandes fêtes comme ça, avec beaucoup de gens, sur des grands podiums. Et puis il n'y en avait pas eu depuis un moment. Par rapport aux années 70, s'il y a quelque chose de plus. Bah, s'il y a quelque chose de plus, c'est la conscience totale qu'ont les gens de leur coexistence. Je veux dire, au niveau des couleurs, au niveau des ethnies, au niveau des tribus, je dirais, au niveau des croyances philosophiques, tout simplement au niveau des peaux, tout simplement ça, et des musiques. Non, je crois que c'est, effectivement, c'est une grande première.
Cette même année 1985, le chanteur Daniel Balavoine s'exprime lui aussi énormément sur ce sujet, comme dans l'émission directe de Philippe Gildas sur Canal+.
Bonjour Monsieur Balavoine, félicitations pour tous vos albums qui sont très très bons.
Merci.
Et je voudrais poser une question à Monsieur Balavoine. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France?
Du trop-plein de
maghrébins, ce qu'on dit les maghrébins, les arabes, car j'ai habité un quartier chaud de Marseille, et les arabes, bon, moi, personnellement, j'en ai marre. Hein.
Est-ce que le caméraman peut faire un gros plan sur les personnes qui sont derrière moi? C'est possible?
Voilà.
Monsieur, est-ce que vous voulez que je demande à ces gens-là de sortir de la pièce, ou est-ce qu'ils peuvent rester?
Non, pas à ce point, mais non, je pense...
Je vais vous dire quelque chose. Allez. Il faut savoir que les Maghrébins et autres sont rentrés en France pour l'exploitation financière. Ça veut dire qu'à l'époque où c'était l'euphorie économique dans les pays européens, y compris en France, ça arrangeait bien les exploiteurs de main-d'œuvre de faire rentrer de la main-d'œuvre moins chère. Et le chômage qui a lieu aujourd'hui et tous les problèmes qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas dus à la présence des Maghrébins ou des Noirs ou des jaunes, de tout ce que vous voulez en France, mais est dû à des enfoirés qui portent souvent le nom, c'est vrai, de patronat, ou de gens d'extrême droite, qui ont exploité les races pour les payer moins cher, et maintenant voudraient s'en débarrasser, alors qu'il est incontestable que ces gens-là qui ont travaillé depuis les années 58, même des fois avant, jusqu'aux années 73-74, c'est-à-dire jusqu'à la crise pétrolière, sont des gens qui ont participé à cette euphorie commerciale, qui ont participé à la réussite de la France parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont travaillé à des prix honteux et exploités par des gens. Alors je crois que s'il y a bien des gens qui ont le droit de rester en France, c'est sûrement plus souvent les chômeurs maghrébins qu'une partie des chômeurs français. Et ça, que ça soit clair, moi c'est ce que je pense. Et en plus là, je deviens, comme vous dites des fois,
c'est très bien.
C'est odieux.
C'est dans ce contexte que Daniel Balavoine sort en octobre 1985 une chanson d'amour antiraciste, La Ziza.
Petite rue de Casbah, au milieu de Gaza. Petite brune enroulée d'un drap, court autour de moi. Ses yeux remplis de pourquoi, cherche une réponse en moi. Elle veut vraiment que rien ne soit sûr dans tout ce
L'Aziza, peut-être le plus grand tube de Daniel Balavoine. Ce titre sort 3 mois avant la mort du chanteur.
1985, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1985, a lieu pour beaucoup de Français une révolution qui, comme toutes les révolutions, est porteuse d'inquiétude. Depuis les années 60, les numéros de téléphone comportent 6 chiffres en province et 7 chiffres à Paris. Comme ici, à Europe 1, dans la bouche de Coluche.
Alors on va avoir un jeu, le numéro c'est quoi ?
232-15-15.
Voilà, alors vous téléphonez au 232-15-15.
Mais le 25 octobre 1985, révolution donc, on rajoute un chiffre à Paris et 2 chiffres en province. Tous les numéros de téléphone seront désormais composés de 8 chiffres. Le numéro d'Europe 1 devient le 42-32-15-15. Et on craint une joyeuse pagaille.
Ici, dans les sous-sols du Central Murat, qui est le centre national de coordination de toute l'opération, les techniciens des PTT retiennent leur souffle à moins de 30 minutes maintenant de la manœuvre de basculement. C'est à 23 heures précises que le ministre des PTT, M. Mexando, appuiera sur un bouton. À la même seconde, les 1700 centraux téléphoniques disséminés à travers toute la France basculeront dans l'ère du téléphone à 8 chiffres. Une véritable révolution technologique. Cela fait 10 ans que les ingénieurs des télécoms la préparent. Les risques ne sont pas absents ce soir. Le bouleversement pourrait entraîner quelques pépins. Des erreurs peuvent toujours se produire, même si tout a été testé à plusieurs reprises et qu'une répétition générale a parfaitement réussi. Au Central Murat, Michel Grossior, Europe 1.
Ce que craint Louis Mexando, ministre des PTT, ancêtre de France Télécom, c'est que tout le monde tente l'expérience de composer pour la première fois un numéro à 8 chiffres dès 23h01. Ça ferait sauter la machine.
Je souhaite et je demande aux abonnés de ne pas se précipiter vers 23h05 pour savoir si ça marche, qu'ils attendent calmement demain matin, ça marchera.
Monsieur le ministre, quand on sait que 25 ans après, les Français parlent encore en ancien franc, alors combien de temps vont-ils mettre pour abandonner leur vieux réflexe à 7 chiffres ?
Je crois que les modifications sont simples puisqu'il y a incorporation de l'indicatif que la plupart connaissent déjà et que en quelques jours, en quelques semaines, ce sera fait. Je souhaite d'ailleurs que les enfants, les adolescents qui tout de suite se sont familiarisés puissent s'adresser, pourquoi pas dans la journée ou demain, à leurs grands-parents ou à leurs parents, pour leur dire les numéros essentiels. C'est encore cette forme de téléphone mi-français, mi-arabe qui fonctionne le mieux.
Et le 25 octobre 1985 à 23h, le ministre appuie sur le bouton.
Attention, nouvel numéro d'Asie. Attention, nouvel numéro d'Asie.
Miracle ! Le monde ne s'est pas écroulé. Le ministre est aux anges.
Tout s'est bien passé, je suis très satisfait et je voudrais saluer la performance que représente pour la première fois dans le monde, sans interruption de trafic, le basculement de plus de 20 millions, 23 millions de numéros en quelques minutes.
Mais tout n'est pas encore gagné parce que vous attendez de bons réflexes des Français maintenant.
Tout n'est pas gagné parce que nous attendons des réflexes civiques des Français. Nous souhaitons que dans les moments qui viennent, il n'y ait pas une précipitation vers le téléphone. Lundi matin, reprise des entreprises et des administrations sera encore un moment délicat. Mais je crois que l'essentiel de la partie est aujourd'hui gagné.
Mais ce changement de numérotation a coûté bonbon aux entreprises.
Pour l'ensemble du groupe Kodak Pathé en France, nous avons été amenés à modifier certains de nos standards et cela entraînait pour nous un coût de l'ordre de 400 000 nouveaux francs.
Donc 40 millions de centimes, c'est assez élevé.
Oui, c'est un coût très important pour une société comme la nôtre. C'est une partie importante du budget.
Est-ce que vous estimez que les PTT devraient prendre à leur charge une partie du coût qu'entraîne la nouvelle numérotation ?
Eh bien, écoutez, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec ce qui s'est passé lorsque l'EDF a imposé dans certains quartiers le passage de 110 à 220 volts. L'EDF a pris à sa charge le remplacement des appareils. Pourquoi les PTT n'en auraient-ils pas fait autant en l'occurrence ?
Autre problème avec cette nouvelle numérotation téléphonique à 8 chiffres. Le standard du SAMU de Paris est submergés.
Les PTT n'y peuvent rien, les pauvres ils sont navrés, ils me téléphonent toutes les heures en me disant comment ça se passe. C'est nous, comme nous centralisons les appels de tout le département, donc 1 300 000 habitants, eh bien tous les gens qui font des erreurs, tous ceux qui font le 1 au lieu de faire le 4, aboutissent chez nous si leur numéro commence par un 5. Et Dieu sait s'il y en a. On a beau avoir plusieurs lignes 15, si des gens appellent pour une vraie urgence, bon, eh ben, ils risquent d'avoir le 15 pas libre alors qu'on a suffisamment de lignes d'entrée. Mais on n'est pas fait pour avoir 200 appels par heure. Vous voyez, les permanentiaires sont obligés d'expliquer aux gens il faut faire le 4 et pas le 1. Bon, c'est ce que j'ai dit au gars au directeur des PTT qui m'a appelé. J'ai dit, vous devriez leur envoyer une boîte de chocolat parce qu'elles font votre boulot.
Et quel groupe français sort un nouveau disque cette même semaine? Téléphone, bien sûr. Ça s'invente pas.
Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui passe s'en aller. Comme le jour avançait, moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir.
Le jour s'est levé et le dernier titre du groupe Téléphone. Le groupe se séparera quelques mois plus tard. Après la publicité, on reste dans les innovations de l'année 85 et nous irons faire un tour du côté du Minitel.
Alors c'est d'accord, on déjeune ensemble à midi.
Ok, à tout à l'heure.
Attends, je ne comprends pas, tu tapes à la machine ou tu téléphones?
Les deux.
Les deux?
Eh ben oui, j'ai les mains libres avec le Digitel 2000.
Le quoi?
Le Digitel 2000, c'est un téléphone à touche avec un haut-parleur réglable. Il est pas loin de moi et en plus il est beau. Tu me connais, ça ne gâte rien.
Mais ça m'intéresse, Digitel 2000, c'est bien ça?
Pour louer un Digitel 2000, allez à votre agence commerciale des télécommunications. Pour vous renseigner, faites le 14, l'appel est gratuit.
Europe 1. 1985, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1985, Internet n'est pas encore là. C'est le Minitel qui assouvit les désirs technologiques les plus fous. Et pour la première fois, en juin 85, les corrigés des épreuves du baccalauréat sont mis en ligne dès le soir même, sur Minitel. Et c'est Maths Secours qui s'occupe des épreuves de maths.
Il suffira de composer sur le téléphone 615 91 77 et de taper sur le Minitel le code AM. Et à la rubrique enseignement, on trouvera les résultats des épreuves du baccalauréat qui aura lieu aujourd'hui en C et D.
Alors pratiquement, ça pose des problèmes parce que les épreuves ont lieu ce matin et dès ce soir, on pourra se servir du Minitel.
Bien effectivement, ce sera un peu une course contre la montre. On va se mettre à plusieurs pour résoudre très rapidement tous les problèmes pratiques de résolution et d'entrée dans le Minitel, mais ça se fera.
En 1985, on peut aussi apprendre les langues étrangères par téléphone. Et là encore, c'est une première.
Notre système phone, bonjour.
Écoutez, moi, avant, et puis répétez après moi. I love New York.
I love New York.
Très bien.
25 minutes de cours par téléphone, c'est 10 heures de cours de groupe. Et dans un cours de groupe, vous entendez le mauvais anglais, le mauvais français de vos collègues, les fautes de grammaire, c'est ça que vous retenez. En plus, en une heure de temps, si vous êtes 10 ou 12 dans une salle, vous parlez au maximum 10 minutes. Tandis qu'une leçon par téléphone, 25 minutes, vous avez un professeur qui enseigne sa langue maternelle, quelqu'un qui vous corrige continuellement et non pas une machine, c'est-à-dire c'est pas un magnétophone, c'est pas un livre. Et grâce à la concentration permise par le téléphone, vous avez 25 minutes de travail intensif, efficace.
Tout de même, c'est un handicap de pas se voir.
Au contraire, ça libère toutes les inhibitions, tous les complexes. Les gens se débrident beaucoup plus facilement au téléphone et s'expriment beaucoup plus volontiers. Alors le gros avantage, c'est que 25 minutes, on trouve toujours le moment dans la journée pour prendre sa leçon. Nous n'avons absolument aucun horaire imposé. L'élève et son professeur se mettent d'accord sur les horaires. Ça peut être à 6h du matin, 11h du soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés, n'importe quand.
Do you speak English?
Do you speak English?
No, I don't speak English.
No, I don't speak English, really.
Il y a très très bons résultats par téléphone. Moi, je suis la première surprise puisque j'enseignais d'autres manières. Les gens s'accrochent terriblement. Le téléphone étant le seul point de contact, ça demande une concentration intellectuelle énorme de la part du professeur et de la part de l'élève. Et si vous voulez, tous les rapports sont intensifiés. Comme il n'y a que le téléphone, le professeur ne peut pas s'en tirer en faisant un mime ou en donnant des explications sur un tableau. Il n'y a pas assez la parole. Hein. Donc dès le départ, ce qui va sortir de la bouche de l'étudiant doit être performant.
C'est fantastique parce que d'abord vous avez une concentration auditive extraordinaire. On n'est pas perturbé par la cravate à pois du professeur. En plus, il y a une économie de temps, on ne perd pas un certain temps à aller à l'école, etc. Il y a un contact qui se crée avec le professeur et qui est très sympathique, ça n'a rien d'inhumain. On n'a pas toujours le temps de pouvoir s'absenter pendant un mois, tandis que là, l'attrait, c'est que bon, vous restez à Paris et vous pouvez apprendre une langue rapidement.
Décidément, en 1985, on veut que ça aille vite, à tout berzin. Et d'ailleurs, McDonald's lance une nouveauté, le drive. C'est-à-dire la possibilité de commander son cheeseburger depuis sa voiture, via un interphone.
Bonjour, puis-je prendre votre commande?
Oui, je voudrais un hamburger, un coca, des frites et un milkshake.
Quel parfum le milkshake, monsieur?
Fruit de la passion.
Desserrez-vous de la mayonnaise ou du ketchup avec vos frites?
Du ketchup.
Je répète votre commande. Un hamburger, une frite, un ketchup, un milkshake passion... Et un coca. Pour un montant de 26,40 francs, ce sera tout?
Oui.
Préparez votre monnaie, vous pouvez avancer, merci.
Mais nous allons à Lyon aujourd'hui, alors on sort de travailler à midi et on a pensé que c'était plus pratique, plus rapide. C'est surtout ce qui nous intéressait aujourd'hui. On n'en est pas friand, mais disons que c'est pratique. Et puis les enfants aiment bien.
Vous mangez quoi à midi?
Frites, coca, sandwich, uniquement. Voilà.
Dans la voiture?
Dans la voiture, oui.
C'est pas gênant?
Non, quand on est pressé, ça va.
Voilà, vous avez l'air très pressé.
Oui.
Vous avez combien de temps pour manger?
10 minutes, un quart d'heure aujourd'hui.
Attendez, vous faites quoi comme métier?
Je suis dans la maçonnerie.
Ouais.
Et j'ai 10 minutes, un quart d'heure.
J'habite Saint-Étienne.
Qu'est-ce que vous pensez de cette formule?
Je trouve ça extraordinaire. J'aime ça parce que ça permet de ne pas perdre de temps. Je dispose actuellement de 45 minutes. Je gagne du temps. C'est un tarif tout à fait correct.
Et c'est bon?
C'est formidable.
Non mais c'est bon?
C'est la deuxième fois que je mange, oui, c'est formidable.
Vous êtes sûr que c'est très bon?
Je pense que c'est très bon, oui. I'd like it very much, yeah. Yeah, because it's the same system in the States. And I think it's a good idea to import that idea in France, yeah.
Alors ça y est, vous êtes un Américain de Saint-Etienne.
Moi je suis, disons, effectivement, d'abord de toute façon plus européen que français. Et je trouve de toute façon qu'il faut se mettre à l'heure internationale. Et que c'est une excellente idée, disons, d'une espèce d'innovation, mais qui, j'espère, se développera plus en France.
1985 connaît l'avènement d'une autre innovation, l'ordinateur. Cette année-là, les ordinateurs débarquent dans les écoles. Et inévitablement, à Noël 1985, les micro-ordinateurs Atari 2006 Junior et Amstrad CPC 6128 truste la tête des ventes.
Parmi les jouets traditionnels qu'il transportera dans sa hotte, le Père Noël devra prévoir une large place pour les micro-ordinateurs. Un phénomène récent, mais qui va en s'amplifiant.
Cette année particulièrement, il y a une accélération très importante de la demande. Le samedi, ce stand est complètement envahi d'enfants qui arrivent là, qui quittent leurs parents, qui font les achats ailleurs, et qui jouent littéralement sur les écrans. C'est même presque impressionnant.
Après les magasins spécialisés et les grandes surfaces, le micro-ordinateur s'est maintenant installé dans les magasins de jouets. Mais y est-il vraiment à sa place?
L'ordinateur est considéré plus par les parents un jouet, mais l'enfant non. Hein. Il le considère comme un outil qui va se servir demain et il veut savoir s'en servir.
Déjà avec l'entrée de l'ordinateur à l'école, l'enfant s'est familiarisé avec l'informatique et pour lui, le jeu n'est plus parfois qu'un prétexte.
On peut créer des choses nous-mêmes que les autres n'ont déjà pas inventé, tandis que sur les autres jeux, c'est tout le temps déjà fait. On invente quelque chose de nouveau.
Ouais, moi j'ai demandé si mes parents s'étaient intéressés aussi. Alors, on a dit pourquoi pas, et puis on en a eu un. Enfin, on va en avoir un. Et puis c'est parce que dans un tout petit téléviseur, ça contient beaucoup de choses, plus que nous on peut en contenir, enfin qu'on peut en savoir.
D'accord, on peut jouer avec, mais je préfère mieux m'instruire avec.
Alors pourquoi t'en demander à Noël? C'est pas un jouet, ça t'amuse pas?
Oui, enfin, c'est pour essayer d'avoir de meilleures notes à l'école.
Bref, pour 1985, on a déjà l'impression d'avoir un pied en l'an 2001. C'était en l'an 2001, chanson de Pierre Bachelet, sortie en 1985.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1985.
1985 est l'année d'une terrible prise de conscience. Le virus du sida tue. En juillet 1985, une star américaine est à Paris. L'acteur Rock Hudson, 59 ans. Dans les années 50 et 60, c'était l'un des beaux gosses d'Hollywood.
L'acteur américain Rock Hudson, l'une des grandes figures du cinéma de l'après-guerre, est hospitalisé à Paris. Il a 59 ans. Il est atteint d'un cancer du foie. C'est malheureusement inopérable. C'est son agent à Los Angeles qui a fait part de cette triste nouvelle à la presse.
Mais Rock Hudson n'a pas du tout le cancer. Il a le sida. Et il est à Paris parce qu'en France, la recherche sur le virus est plus avancée que partout ailleurs. Cette maladie a été identifiée chez nous il y a à peine 2 ans. Et dans le monde entier, elle suscite encore beaucoup de craintes surréalistes.
Depuis que l'on sait que l'acteur Rock Hudson est atteint du sida, une véritable panique s'est emparée des États-Unis. L'hebdomadaire Newsweek que vous allez découvrir, l'hebdomadaire Newsweek, consacre sa une au phénomène et n'hésite pas à écrire qu'il s'agit du problème le plus grave concernant la santé des Américains. L'affaire secoue en particulier les milieux du cinéma car une polémique s'est ouverte sur une possible transmission de la maladie par la salive. Hélène Rizacher.
Au temps ancien du cinéma, les baisers d'acteurs, même passionnés, restaient finalement très chastes. Les choses ont un peu changé aujourd'hui. Et ces baisers des vrais provoquent depuis quelques jours la panique à Hollywood. Point de départ, un échange passionné, analogue à celui-ci, entre Linda Evans et Rock Hudson dans le feuilleton Dynasty. Rock Hudson qui a dû récemment avouer à la face du monde qu'il est atteint du sida. La presse américaine s'empare de l'affaire et révèle, peut-être avec raison, l'homosexualité de l'acteur, considéré jusqu'alors comme le dernier héros romantique d'Hollywood. Affolement, Linda Evans, la Madame Dynasty, se précipite à l'hôpital afin de subir le test du sida. Il y a fort à parier que plus jamais elle n'embrassera Rock. John Derek, le mari de Beau, s'épouvante à son tour. Plus question de toucher à sa femme, même au cinéma, sans avoir produit de certificat de bonne santé après le test de la salive. Et chez les monstres sacrés, Elizabeth Taylor conserve toute sa dignité, rend visite au malade Rock Hudson et prépare un dîner prestigieux à Los Angeles qui devrait rapporter plus $1 million pour combattre le sida.
Rock Hudson décède le 2 octobre 1985. Il est la première personne publique à mourir officiellement de cette terrible maladie.
Un voyage, une maladie et un traitement qui avaient attiré l'attention du monde entier sur le sida. Alors, voyons tout de suite un rapide portrait pour se souvenir un peu de Rock Hudson ce soir, Béatrice Schoenberg.
Plus de 60 films en 30 ans de carrière, Rock Hudson, c'était l'image du héros romantique. Vous l'avez bien sûr vu dans L'Adieu aux armes ou dans Giant. Rock Hudson, c'était la première personnalité du cinéma atteinte par le sida. Souvenez-vous de ces photos à la une des grands quotidiens, de ce visage émacié de l'acteur qui a, c'est vrai, contribué à attirer l'attention du monde entier sur cette maladie.
D'une certaine manière, la mort de Rock Hudson a été utile. Elle a permis à la planète Terre de prendre conscience du fléau du sida.
1985, Ondelat raconte sur Europe 1.
Le 6 février 1985, Michel Drucker reçoit sur Europe 1, dans son émission Studio 1, le chanteur Richard Cotener et une jeune chanteuse québécoise absolument inconnue. D'ailleurs, à l'entrée de la station, pas le moindre chasseur d'autographes. Personne ne fait le pied de grue pour tenter de l'apercevoir. Elle s'appelle Céline Dion.
Céline Dion, morale de toujours. Céline qui descend de l'avion. Air Canada ou Air France ?
Air Canada.
Air Canada. Comment ça va au Québec ? Il fait,
mais ça
il
va
fait
très bien. Ben, il fait plus froid qu'ici.
Le carnaval de Québec, c'est pour bientôt ? C'est toujours en février, hein ?
Ben oui.
Oui.
Ça s'en vient vite, à part ça.
Oh, ça s'en vient à une vitesse, ma pauvre. Céline Dion, qui habite maintenant, quoi ? 3 mois par an en France ? 4 mois par an en France ?
Ben, je viens souvent en France, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup la France, je vais vous avouer sincèrement.
C'est bien que vous soyez une jeune fille en fleurs, puisque vous avez 17 ans à peine. Est-ce que les Français...
Pas encore 17 ans.
Non, 16 ans et demi.
Mais ça va venir bientôt. Puis j'ai très, très hâte à part ça, parce que on va faire des tournées. Et puis ma première tournée, ça va être au Québec. Et puis ça va être la journée de mon anniversaire, le 30 mars, où je vais avoir 17 ans.
Allons bon.
17 ans. Et puis je vais faire une tournée avec...
Ah, moi aussi, c'est mon anniversaire le 30 mars.
C'est son anniversaire.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
Ça, c'est un signe. Non, ça crée des liens, ce truc-là.
Ça serait le fun de célébrer ça ensemble.
En quelle année?
Ce serait fun de célébrer ça ensemble à Québec, dit.
Faut voir.
Je
sais pas si c'est la même année.
Oh, ça va être 2 ans plus tôt.
2 ans plus tôt, lui. Lui, c'est 2 ans plus tôt.
Et puis, c'est une tournée avec 23 musiciens, avec des danseurs, pendant 1 heure et demie de temps où je vais pouvoir. Puis, moi, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est d'avoir contact avec les gens. J'aime beaucoup ça.
Ah ben, c'est bien. J'ai hâte. Est-ce que les Français vous font la cour? Les jeunes Français vous font la cour? Répondez-moi franchement. Votre
ben, je sais pas.
Votre mère n'est. Moi, je sais, moi. Je vous ai vu l'autre jour au traversier rue Marbeuf.
Ils font peut-être pas la cour, mais ils font peut-être le jardin, je sais pas.
Et il y a un gars qui s'est retourné sur son passage, comme s'il se retournait sur le passage de quelqu'un de 25 ans. Il savait pas que c'était une jeune fille. Ma petite Céline Dion, à bientôt.
Ben, je l'espère.
Hein, vous nous tenez au courant, hein, dès que la tournée commence.
Ben, je veux bien.
D'accord.
Avec plaisir.
Ce sera fun de vous accompagner, on fera un bout de chemin ensemble.
Merci beaucoup.
On prendra le même char.
Même char, on va chauffer notre char.
Oui, salut Céline, à bientôt.
Merci beaucoup, tout le monde. Merci.
Désolé pour Céline Dion. Mais en 1985, elle est encore un peu jeune. Ça n'est pas elle qui signe le tube de l'année 85. Mais ce sont les Rita Mitsouko avec l'un des plus grands morceaux du répertoire français, Marcia Bella.
Et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es ensemble sans la mort qui t'a emmené. Mathia, danse un peu chinois, la chaleur.
En 1985, les Rita Mitsouko écoulent près de 800 000 exemplaires de Marcia Baila, une chanson hommage à Marcia Moreto, danseuse argentine et amie de la chanteuse du groupe Catherine Ringer. Elle est décédée d'un cancer du sein en mai 83 à seulement 36 ans. Et le succès de ce titre est dû à un passage de la chanson dans Platine 45 sur Antenne 2, une émission très suivie à l'époque par les jeunes. Le morceau entre au top 50 le 27 avril 1985. Il y restera 6 mois. Guillaume Maury et Julien Pichenet mettent tous les jours à écrire ce programme. Réalisation signée Guillaume Vasseau. La suite de notre visite privée dans l'année 1985 dans le quatrième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.